Décryptage. Anne Corpet.
Dans 2 mois, jour pour jour, le 8 novembre, se tiennent aux États-Unis les élections de mi-mandat. Un scrutin déterminant pour la suite de la présidence Biden et la prochaine course à la Maison-Blanche. Ces élections sont généralement désastreuses pour le parti au pouvoir. Avant l'été, les Républicains avaient le vent en poupe. Le président stagnait au plus bas dans les sondages, peinait à légiférer et les Républicains le présentaient comme un vieux monsieur fatigué, voire un vieillard sénile. Mais la donne est en train de changer. La Maison-Blanche a fait passer plusieurs lois importantes pendant l'été. Joe Biden a retrouvé de l'agressivité et les potentiels ennuis judiciaires de Donald Trump, qui continue de jouer les trublions, sont susceptibles de gêner les Républicains. À 8 semaines du scrutin, les démocrates reprennent l'espoir de sauver leur majorité au Congrès. Aujourd'hui, dans Décryptage, nous faisons le point sur la situation politique aux États-Unis, un pays qui n'a pas fini de nous surprendre. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Et pour parler de ces élections qui verront le renouvellement de la totalité des sièges de la Chambre des représentants et d'un tiers de ceux du Sénat, nous sommes en studio avec Alexis Pichard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en civilisation américaine, professeur agrégé de classe préparatoire et auteur de « Trump et les médias, l'illusion d'une guerre ». C'est paru chez VA Éditions. Et Hugo Bouvard, vous êtes aussi ici avec nous en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en histoire et sociologie des États-Unis à l'Université Paris-Cité. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Et tout d'abord, Alexis Pichard, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi ces élections de mi-mandat sont aussi importantes pour la suite ?
Alors, comme vous l'avez précisé en propos liminaire, les élections de mi-mandat sont généralement défavorables au parti présidentiel. On l'a vu notamment sous Obama, sous également Trump, où il a perdu la Chambre des représentants. Et cette fois-ci, comme vous l'avez dit, on s'attendait à une victoire, enfin les médias prédisaient déjà une victoire des Républicains depuis le début de l'année. Or, il y a eu une remontada de la part de Biden qui a été effectuée cet été, qui a rebattu les cartes.
C'est-à-dire mais pourquoi ce scrutin, il est si important ?
Pourquoi il est si important ? Parce qu'on a une Amérique qui est extrêmement divisée, un système politique qui est dysfonctionnel et dont l'équilibre politique ne tient finalement qu'à une faible majorité des démocrates. Or, s'ils perdent les deux chambres, Biden sera complètement bloqué dans le logiciel qu'il souhaite mettre en œuvre et dans les projets de loi qu'il souhaite faire voter aux élus démocrates.
Et en particulier, s'il perd le Sénat, Hugo Bouvard, il ne pourra par exemple pas nommer de juge, ce qui a été un attribut majeur de la présidence Trump.
Oui, tout à fait. Et puis, il me semble qu'il y a un autre enjeu très crucial à ces élections, c'est que les sénateurs républicains et gouverneurs républicains qui sont susceptibles d'être élus, car il y a aussi des élections concernant les gouverneurs, il y en a un certain nombre qui nient toujours le résultat de l'élection de 2020, qui contestent le fait que Biden soit le président légitime. Et donc, si ces personnes-là étaient élues, on pourrait s'attendre à ce qu'en 2024, elles refusent de certifier le résultat des prochaines élections présidentielles si elles ne leur conviennent pas.
Alors, on l'a dit, les 19 premiers mois du mandat de Joe Biden ont ressemblé à une cohabitation hostile. Il a semblé un peu subir les événements, mais le vent tourne et son taux d'approbation est passé d'un terrible 31% début juillet à 40% fin août. Alexis Pichard, qu'est-ce qui s'est passé cet été ?
Mais Joe Biden a décidé de reprendre les rênes de la présidence. Pendant les 2 premières années, il a été accusé par une partie de la gauche d'être extrêmement dans une forme d'impuissance vis-à-vis des assauts des républicains et aussi des décisions de la Cour suprême, notamment celle concernant l'avortement.
On y reviendra, oui.
Et là, tout à coup, il s'est passé un gros changement, c'est-à-dire que Joe Biden a décidé de passer à l'attaque et de faire passer des textes forts durant l'été. Donc, on peut penser à la loi sur le port d'armes qui a suivi les tueries d'Uvalde, notamment, qui était dans une petite école. On peut également penser récemment à l'annulation partielle de la dette étudiante, qui était un décret présidentiel, mais qui était attendu depuis au moins l'élection, puisque c'était une promesse de campagne qui n'avait pas encore été mise en place. Et dernier texte qui a été passé il y a peu de temps, celui sur l'inflation, l'anti-inflation.
Oui, ça, c'est le texte le plus important, Hugo Bouvard, non ?
Oui, tout à fait. Enfin, le fait d'avoir réussi à maîtriser l'augmentation de l'inflation qui, au printemps, atteignait des niveaux vraiment préoccupants est sans doute un facteur qui contribue à cette meilleure forme des démocrates dans les derniers sondages. Oui.
Alors, oui, parce qu'en fait, Alexis Pichard, c'est l'économie qui reste le moteur majeur des Américains hein, quand ils vont voter.
C'est le pétrole, le coût du pétrole. Et là, Joe Biden, pardon, quel lapsus.
De l'essence, vous voulez.
Le prix de l'essence, oui, tout à fait. Et là, Joe Biden a la chance, ou en tout cas, il voit le prix du pétrole baisser, le prix du gallon baisser. Et ça aussi, c'est important pour les Américains qui vont voter. Et d'ailleurs, dans les intentions de vote, les deux choses qui sont les plus importantes pour les Américains, c'est à la fois l'inflation, mais aussi l'avortement.
Alors, l'avortement, bah, on va y venir. Donc, c'est cette décision de la Cour suprême en juin dernier qui a abrogé l'arrêt Roe contre Wade qui permettait, qui rendait légal l'avortement. Maintenant, chaque État peut décider de l'interdire. Hugo Bouvard, vous pensez que ça va être un moteur de mobilisation pour les démocrates, mais au-delà des démocrates même ?
Alors, au-delà des démocrates, c'est difficile à dire, mais au sein de l'électorat démocrate, ça c'est sûr, puisqu'on a déjà constaté l'augmentation de l'inscription sur les listes électorales dans notamment les États du Sud des femmes. Il y a certains États où près de 2/3 des nouveaux inscrits sont des nouvelles inscrites. Et ça suit directement cet arrêt de la Cour suprême. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet mobilisateur chez les femmes susceptibles de voter pour le Parti démocrate.
Et puis Alexis Pichard, on l'a vu, hein, il y a eu au Kansas, qui est un État très conservateur, un référendum plutôt inquiétant pour les Républicains à ce sujet.
Il me semble que c'était plutôt en Arizona, mais je peux me tromper.
Non, c'était le Kansas. Oh, alors, le 2 août au Kansas.
Oui, c'est, tout à fait.
Ils sont prononcés contre.
Oui, tout à fait. Dans les États où, en fait, ils sont passés par les législatures, c'est-à-dire les congrès locaux, là, il n'y a pas eu de problème. Mais quand ils sont passés directement, quand ils ont fait appel au peuple, le peuple a voté majoritairement contre, même dans les États les plus conservateurs, notamment le Kansas et les États du Sud.
Oui, il faut le rappeler, plus de 57% des Américains désapprouvent la décision de la Cour suprême et 62% estiment que l'avortement doit rester légal. À votre avis, Alexis Pichard, les Républicains ont tort, les élus locaux, par exemple, ont tort de s'engouffrer dans la porte ouverte par la Cour suprême. Ça risque de leur coûter cher.
Ça risque de leur coûter cher et ça, en fait, ça fait partie du logiciel trumpiste, hein, c'est-à-dire qu'on va vers l'extrême droite, on fait des appels du pied à une sorte de nationalisme chrétien auquel n'adhèrent pas les indépendants et même une partie des républicains qui est plus modéré. Donc c'est un choix qui est discutable, qui fonctionne au sein du Parti républicain parce que les franges MAGA, donc Make America Great Again, sont majoritaires. Mais au-delà de cette frange, les républicains ne vont pas réussir à capter l'électorat modéré et indépendant, qui fait pourtant les rois de l'élection.
Alors, est-ce que le principal acteur aussi de ce retour en grâce des démocrates, Hugo Bouvard, ce n'est pas Donald Trump lui-même, parce que l'ancien président est quand même pris dans la tourmente depuis la perquisition du FBI dans sa résidence de Mar-a-Lago le 8 août. Il a emporté avec lui des dizaines de cartons de documents confidentiels aux archives nationales. Est-ce que ça peut jouer un rôle dans ce scrutin ?
Oui, tout à fait, ça peut jouer un rôle. Et d'ailleurs, il y a eu quelques élections législatives partielles depuis cette perquisition, notamment en Alaska récemment. Alors, certes, avec un mode de scrutin un petit peu particulier, mais la candidate Sarah Palin, dont on se souvient, et qui était soutenue par Trump, a perdu. Et donc, c'est une démocrate qui, pour la première fois en 50 ans, a remporté cette élection en Alaska. Donc, c'est peut-être déjà un premier signe de cet événement. En tout cas, c'est sûr que ça ne favorise pas les républicains, ces ennuis judiciaires de Trump, qui pèsent beaucoup dans la campagne, qui a soutenu un certain nombre de candidats à des postes de sénateurs, de gouverneurs, qui souvent ont remporté leur primaire au sein du Parti républicain, mais qui sont parfois très controversés ou très inexpérimentés, et ça pourrait leur coûter dans les urnes aux élections de mi-mandat.
Alors, bien qu'affaibli, Donald Trump, hein, qui vient de qualifier Joe Biden d'ennemi de l'État, continue de galvaniser les foules, hein, comme il l'a fait récemment au Texas. On écoute l'ancien président.
L'inflation atteint des sommets, le prix de l'essence a explosé, les meurtres ont augmenté, les migrants illégaux entrent par millions et millions. Ce mois de novembre, vous devez virer ces fous furieux du pouvoir.
Alors Alexis Pichard, vous avez écrit un livre sur Donald Trump. Est-ce qu'il continue d'être cette machine électorale redoutable qu'il a été? Est-ce qu'il continue d'exercer un pouvoir important sur l'électorat républicain?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, il continue à avoir la main mise sur le Parti républicain. Et là, on voit que dans les élus qui sont actuellement désignés par les primaires, ils sont tous trumpistes pour l'énorme majorité. En revanche, c'est une machine à perdre aux élections nationales parce que ces élus ne vont pas pouvoir faire face à des candidats centristes de gauche qui, eux, appellent justement les électeurs modérés, les électeurs indépendants. Et c'est pour ça que certains du côté démocrate sont bien heureux que ce soit des élus trumpistes qui soient élus, parce qu'ils sont sûrs de l'emporter, parce que justement ils sont trop extrémistes pour un électorat qui est lui plus modéré, plus centriste.
Donc c'est une erreur tactique du Parti républicain, parce que c'est vrai qu'on a vu Liz Cheney perdre de manière retentissante cet été dans des primaires au Wyoming. Liz Cheney, c'est l'une des rares républicaines qui a participé à la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole. Et d'ailleurs, aucun des 6 républicains qui ont voté la destitution de Donald Trump n'a gagné la majorité des votes lors des primaires. Donc ça veut dire, Hugo Bouvard, qu'il y a une différence entre la perception le Parti républicain, je veux dire que le Parti républicain se trompe en choisissant des trumpistes pour les représenter.
Alors, il y a quand même des divergences au sein du Parti républicain. Pour reprendre cet exemple en Alaska, la raison pour laquelle la démocrate a été élue, c'est quand même parce qu'elle faisait face à 2 candidats républicains, Sarah Palin, qui était soutenue par la frange trumpiste, et puis un autre candidat qui, lui, était investi par les autorités du Parti républicain en Alaska. Donc il y a quand même, au niveau des États, les responsables, les cadres du Parti républicain ne sont pas tous partout trumpistes. Donc il y a quand même des dissensions en leur sein.
On a l'impression qu'ils se cachent un peu, les non-trumpistes, quand même, non?
Un petit peu.
Bon, alors, Joe Biden, lui, revenons à lui. Il adopte un style plus percutant à l'approche du scrutin. L'homme des compromis est passé à l'offensive. Il accuse les forces MAGA, pour Make America Great Again, le fameux slogan de Donald Trump, d'être contaminées par une idéologie de semi-fascisme. C'est ce qu'il a dit à Philadelphie le 1er septembre dernier.
We must be honest with each other and with ourselves.
Nous devons être honnêtes entre nous et avec nous-mêmes. Trop de choses qui arrivent dans notre pays aujourd'hui ne sont pas normales. Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements même de notre république. Je veux être très clair. Très clair et direct. Tous les républicains ne sont pas des républicains MAGA. Tous les républicains n'embrassent pas leur idéologie extrême. Je le sais car j'ai pu travailler avec ces républicains majoritaires. Mais il n'y a aucun doute que le Parti républicain est aujourd'hui dominé, dirigé et intimidé par Donald Trump et les républicains MAGA. Et c'est une menace pour ce pays.
Alors Hugo Bouvard, vous en parliez il y a un instant, mais est-ce que Joe Biden a des chances de convaincre l'électorat républicain modéré de voter pour un candidat démocrate au Congrès plutôt que pour un élu trumpiste?
Alors, la situation varie en fonction des États. Il y a des États qui sont plus ou moins susceptibles de basculer. D'autres sont plutôt assurés d'être remportés soit par les républicains, soit par les démocrates. Je ne sais pas s'il est en mesure de convaincre des républicains modérés de voter pour le candidat démocrate, mais en tout cas, il peut remobiliser, je pense, par ce discours assez offensif de la semaine dernière. On voit un ton quand même nettement plus combatif, remobiliser les troupes démocrates qui, peut-être, pour certaines, avaient été un petit peu déçues par le début de son mandat. Et là, comme l'a rappelé Alexis, depuis quelques semaines, les lois qui ont été passées ont de quoi redonner un petit peu de cœur à l'ouvrage aux démocrates.
C'est ça la clé du scrutin, Alexis Pichard, c'est la mobilisation, parce que habituellement on vote pas beaucoup aux élections de mi-mandat, en particulier les jeunes, les minorités. Cet électorat démocrate ne bouge pas beaucoup vers les urnes.
Absolument, l'enjeu des démocrates à chaque élection, et pas que aux élections législatives, c'est de remobiliser des électorats qui sont souvent en grève, qui sont souvent dépolitisés. Je pense aux minorités, notamment noires, qui pour la plupart ont à peine n'ont pas de conscience politique à proprement parler. Donc, notamment sous Obama, ça avait été un énorme travail de terrain de mobiliser ces électorats pour qu'ils aillent voter. Là, il me semble que le point de la charnière, ça a été vraiment la décision de revenir sur le droit à l'avortement de la Cour suprême qui vraiment a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Hugo, mobilisé les femmes, notamment les femmes des banlieues, pourtant qui sont traditionnellement plus conservatrices, mais qui, à la faveur de cette décision de justice, vont aller se manifester, vont aller placer leur voix dans l'urne aux élections législatives.
Alors, la Cour suprême a pris d'autres décisions récentes sur les armes à feu, également sur l'environnement. En fait, on a l'impression ces derniers temps que la Cour suprême a pris un peu le pas sur le Congrès pour légiférer, en quelque sorte. Est-ce que ça, les Américains l'attribuent à Donald Trump, le rendent responsable, puisque finalement, c'est lui qui a nommé ces trois juges ultra-conservateurs. Et est-ce que vous pensez qu'il y a chez les Américains ce désir de reprendre la main, c'est-à-dire en allant voter massivement pour un Congrès qui aurait les moyens d'agir ?
Oui, c'est sûr que ça joue en partie et ils ont raison d'attribuer à Donald Trump ce pouvoir accru de la Cour suprême puisqu'il a nommé, comme vous l'avez rappelé, un certain nombre de juges au cours de son mandat. Et ce qui est intéressant, à la fin de la décision Dobbs, un des juges conservateurs de la Cour suprême a ouvert la porte à l'abrogation, par exemple, du mariage pour les couples de même sexe. Et les démocrates au Sénat ont annoncé dans les prochaines semaines, avant les élections de mi-mandat, donc ils jouent le calendrier, ils ont annoncé qu'ils allaient déposer un projet de loi pour garantir l'accès au mariage, donc aux couples de même sexe, pour forcer les républicains, y compris modérés, à se positionner. Et ils espèrent bien que ça leur bénéficiera dans les urnes, parce que les sondages montrent que plus de 2/3 des Américains, tout parti confondu, soutiennent le droit au mariage pour les couples de même sexe.
Et quid de l'aile progressiste du Parti démocrate, Alexis Pichard, vous y faisiez allusion tout à l'heure, mais Bernie Sanders et son électorat progressiste, est-ce qu'ils vont accepter, une fois encore, comme ils l'ont fait en novembre 2020, d'être la bouée de sauvetage électorale de Joe Biden ?
Ils ont quelques motifs quand même de satisfaction. Je pense au décret présidentiel sur la dette étudiante. Bernie Sanders a dit que ça n'allait pas suffisamment loin, mais que c'était déjà un pas considérable pour le type d'électeur qu'il défend. Pareil pour le pack anti-inflation, qui est en fait une sorte de texte qui singe en fait le Build Back Better. Voilà, je vais y arriver, qui était un texte que voulait l'aile gauche de la gauche, mais qui a été enterré au Sénat à cause de Joe Manchin et Kirsten Sinema, qui sont deux démocrates modérés. Donc finalement, l'agenda de la gauche parvient quand même à infuser l'aile centriste du Parti démocrate. Donc, effectivement, ça ne va pas assez loin, mais en tout cas, c'est déjà un motif de satisfaction pour ces démocrates.
Hugo Bouvard, est-ce qu'il y a des États à surveiller en particulier, ou est-ce que vont se dérouler les batailles plus importantes ?
Oui, il me semble qu'il y a vraiment 4 États à surveiller en particulier. C'est le Wisconsin, le Nevada, l'Arizona et puis surtout la Géorgie, où le sénateur démocrate sortant a été élu lors d'une partielle il y a un an. Alors certes, il va sans doute bénéficier de l'effet élu sortant, qui est très très fort aux États-Unis, mais c'est un État qui, même s'il bascule de plus en plus du côté des démocrates, est farouchement républicain. Et donc ce siège démocrate, il est crucial à conserver pour les démocrates. Et par contre, les républicains, s'ils veulent avoir la majorité au Sénat, il est crucial qu'ils le remportent.
Et les démocrates, Alexis Pichard, doivent aussi compter avec le découpage, j'allais dire le charcutage électoral opéré par les républicains qui ont longtemps tenu tous les États, les assemblées et les parlements locaux. Ça, c'est un vrai handicap pour eux.
Alors, il y a effectivement le gerrymandering, qui est le redécoupage électoral, qui est extrêmement défavorable aux démocrates dans les États républicains, mais aussi les lois qui ont été passées par les gouverneurs et les législatures républicaines pour faire en sorte que les minorités, notamment qui sont le cœur de l'électorat des démocrates, ne puissent pas voter, que ce soit sur la présentation de papiers d'identité, par rapport à leur casier judiciaire. Tout a été fait pour faire en sorte que les électorats démocrates soient minorés, soient minimisés dans les futurs scrutins.
Et Hugo Bouvard, on a oublié de parler d'un élément essentiel dans les élections américaines, et on a très peu de temps, l'argent. Les démocrates ont assez d'argent pour faire face aux républicains ?
Alors oui, les candidats démocrates réussissent à lever des fonds. Après, ça dépend des États. Il y a quand même certains États, par exemple dans l'Arizona, il me semble, où le candidat républicain a levé vraiment 5 ou 6 fois plus d'argent que son rival démocrate. Donc parfois, il y a des gros écarts en termes d'argent, mais ça va jouer un rôle. Ouais.
Merci beaucoup Alexis Pichard, docteur en civilisation américaine, professeur agrégé, auteur de Trump et les médias. Hugo Bouvard, maître de conférences en histoire et sociologie des États-Unis à Paris-Cité. Merci à Hélène Avril qui assurait la réalisation de cette émission.